Cet après-midi, je veux partager avec vous le message peut-être le plus simple de ma vie. Il s'intitule « Passe un cap ». Passe un cap, pourquoi ? Parce qu'on est dans la série qui s'intitule « Processus ». Moi, j'aime le processus si le processus m'emmène quelque part, non ? Parce que normalement, le processus, c'est que tu prends quelque chose, tu le fais passer par toute une série de circonstances et il devient quelque chose d'autre. Le but de Dieu n'est pas de faire de nous des processus. Le but de Dieu, c'est qu'au travers de nos vies, il travaille nos vies et on devienne quelque chose de réel, de concret. On n'est pas juste des êtres spirituels, on sera un jour sans ce corps. Je vous le garantis. Un jour, le corps n'existera plus, l'âme sera juste libérée, on sera dans la présence de Dieu pour l'éternité ou pas. Mais la seule réalité qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous sommes en vie et Dieu veut que notre vie ait du sens, qu'elle ait une forme réelle. La Bible dit que Dieu a préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Ah, ce mot, je l'aime. Afin que nous les pratiquions. Il n'y a pas écrit « afin que nous les rêvions », « afin que nous les espérions », afin que nous les racontions les uns aux autres, afin que nous en écrivions des chants à propos d'eux, il y a marqué pour que nous les pratiquions. Christ est mort pour qu'on puisse entrer dans le réel, en fait. C'est vrai. Et pourtant, des fois, l'Église, on dirait qu'elle fait l'inverse. C'est qu'avant, tu étais dans le réel, tu deviens chrétien, tu es dans le spirituel, tellement spirituel que tu es dans l'irréel. Or, tu es appelé à être justement ces pieds de Dieu, ces mains de Dieu dans la vérité, dans le réel. Nous sommes dans le réel. Amen. J'ai reçu la facture EDF la semaine dernière. C'est le réel, ça. Je peux faire karababababibaba. EDF, il me met la majoration si je ne paye pas. Non ?
C'est sûr.
Donc, EDF est plus puissant parfois que le démon. Parce que le démon, karababab, lui s'en va. Mais EDF, il reste. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est qu'on est des êtres humains sous le soleil et on vit dans cette terre. Et on doit apprendre justement à composer dans cette réalité. Je suis un corps, je suis une âme, j'ai un esprit, mais je suis encore là et je veux apprendre à vivre la vie que Dieu a pour moi de la manière concrète et réelle. Donc le message s'intitule « Passe un cap, conseils pratiques pour grandir ». On va parler de conseils pratiques pour grandir parce qu'on sait beaucoup de choses sur Dieu. Et en fait, moi, je crois, je suis convaincu, souvent on en parle avec le pasteur Romaric, je suis convaincu qu'au bout d'une année de vie chrétienne, grosso modo, tu sais tout. Tu sais tout. Donc, on pourrait dire, écoute, arrête là, stop, maintenant pratique. Moi, je donne un an, peut-être c'est plus court, en fait. Hein. Mais Romaric me disait, la semaine dernière, il me dit, t'imagines, minimum 52 messages dans l'année. On entend. 52. Alors, aujourd'hui, c'est peu, parce qu'avant, on a eu des saisons, lui, il avait des fois 14 messages par semaine. Tu as vécu ça, hein ? Tu as connu ça. Des fois, c'était au minimum 6 par semaine, mais disons juste une fois, 52, 2 ans, 104, waouh, 20 ans ! Et après, si tu vis un peu longtemps, 60 ans, 70 ans de vie chrétienne, mais tu peux écrire toi-même la Bible. Tellement tu en connais des versets et des messages et des sermons. Et je crois qu'il est important de comprendre que la vie chrétienne, c'est que du pratique, c'est que des conseils pratiques. Et si on veut passer un cap, il faut que j'apprenne à passer un cap de manière concrète, réelle, pratique. Connaître, on va parler de trois choses, si Dieu veut, peut-être deux cet après-midi, mais on va parler de trois choses qui sont des défis pour nous tous. Premier défi de la vie chrétienne, la prière. Qui sait pour qui c'est facile de prier ? Dis à la personne à côté de toi, ça me rassure, t'es comme moi. T'es comme moi. Qui a déjà arrêté de prier alors qu'il était chrétien ? Ne levez pas la main, vous pouvez tous la lever. On a tous à un moment donné arrêté de prier. Deuxième défi de la vie chrétienne. La Bible. Est-ce que tu sais que c'est facile la vie chrétienne ? Tu pries, t'as la Bible. Après, on peut faire plein de messages sur ça. Mais ça se repose sur des choses simples. Tu peux connaître les 38 profondeurs de la parole de Dieu, les 18 clés pour libérer la puissance des versets, mais si tu ouvres jamais la Bible, tout ça c'est inutile, ça sert à rien. Il vaudrait des fois mieux arrêter de connaître toutes ces clés. Des fois les clés, le trousseau il est lourd, hein, tellement on en connaît. Et juste de revenir à des choses simples. Et en fait, la troisième chose, c'est les relations entre frères et sœurs, les relations humaines. Parce que la Bible dit, et surtout dans les épîtres, si vous prenez votre Bible et que vous lisez les épîtres, c'est que les uns les autres. C'est ensemble, si on comprend la puissance que Dieu a renfermée au milieu de l'Église, ce qu'on peut libérer. Donc en fait, ce que je veux vous proposer cet après-midi, c'est qu'on parle de choses très concrètes, très simples, mais sur la prière, sur la parole et sur les relations. Parce que si nous ne savons pas, si nous ne pratiquons pas, si nous ne posons pas des actes, tout ce que nous savons, ça ne sert à rien. Et moi, je le dis souvent, je crois, pour moi, m'enfermer dans une salle pendant une heure et demie par semaine jusqu'à la fin de mes jours pour que ça ne serve à rien, ça m'énerve. Non ? Et surtout si c'est toujours la même chose qui s'y passe dans cette salle. Parce que je ne fais pas ça. Est-ce que ça vous arrive à vous de regarder toutes les semaines le même film ? Non ? Enfin, on fait ça quand on est... Si les petits font ça un peu, là, au début, là, ils sont en phase de délire, là. Mais toi, quand tu es adulte, tu ne fais plus ça. Donc je prie que l'Église ne soit pas juste un mauvais film qui repasse tous les dimanches. Amen. Non ? Amen. Même si c'est un bon film, et même si c'est un bon film, si tu le regardes toutes les semaines, voilà, tu n'es plus là, le suspense, il est passé, quoi. Donc on va parler de choses simples. La première des choses que je veux partager avec vous, c'est passer un cap dans la prière. Passe un cap dans la prière. Tu veux aller plus loin dans ta vie chrétienne, tu veux accomplir des exploits, tu veux rester en vie spirituellement, passe un cap dans la prière, fais un pas de plus dans la prière. Ces derniers mois, j'ai fait pas mal de vidéos sur le réseau social TikTok, je suis étonné d'ailleurs ce qui prend place, mais je vous assure, je reçois des dizaines de messages toutes les semaines et les gens me posent toujours deux questions. C'est pas simple, c'est pas compliqué. Tu veux intéresser les gens dans l'Église ? Réponds à deux questions. Première question, comment on sait quel est l'appel de Dieu pour sa vie ? Tout le monde me demande ça. Deuxième question, comment on fait pour prier ? Ah, pourtant tout le monde est chrétien. Est-ce que vous savez que les disciples ont posé cette question à Jésus ? On va l'afficher, s'il te plaît. Il y a écrit... Dans Luc, on aurait pu le prendre dans Matthieu, mais là je l'ai pris dans Luc. Jésus priait un jour à un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». D'autres versions disent « Enseigne-nous comment prier », comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc moi, je suis étonné parce que je vois des disciples qui marchent avec Jésus. Vous savez, Jésus est vraiment, vraiment là, il est à côté d'eux. Ils marchent avec Jésus, ils voient Jésus prier, Jésus leur donne des paroles qui touchent le royaume de Dieu, des enseignements spirituels toute la journée, puis au bout d'un moment, quand même, ils disent, « Seigneur, quand même, est-ce que tu peux juste nous expliquer comment on prie ?» Il y a quelques semaines de ça, on était dans le groupe de Marseille, et dans l'église, dans les maisons à Marseille, et il y avait, c'est le pasteur Romaric qui prêchait, il a fait un message en vidéo, tout ça, et il y avait un jeune homme qui est là, qui est tout nouveau, qui jamais allait à l'église, qui sait rien du tout de nos trucs délirants, là. Il arrive et il a écouté, puis à la fin, il a dit, oh, « J'ai rien compris. » Mais alors, rien compris. Parce que nous, on prend pour acquis des concepts que si tu ne les connais pas, tu ne peux même pas les comprendre. La prière, quand tu arrives à l'église, on te dit, « Faut prier. » Oui, mais comment on prie ? Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe ? Et j'aimerais dénoncer des mensonges sur la prière, quatre mensonges sur la prière. Premier mensonge, certains ont plus de mal à prier que d'autres. Alors, c'est un mensonge. Regarde la personne à côté de toi, lui aussi, il a du mal à prier. Il n'y a pas un talent spécifique, il n'y a pas une grâce spécifique qui fait qu'il y en a certains pour qui, ben, eux, c'est des prieurs, ben, eux, c'est des charnels. Non, c'est tous des charnels qui essayent de découvrir ce qu'est la prière. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que parfois, on se culpabilise pour rien. On est là, on se dit, ah ouais, mais lui, ah, quand je regarde Romaric à la prière, il est là, il est beau, il a son t-shirt, là, timing de Dieu. Et moi, j'arrive même pas à prier 5 minutes. C'est difficile pour tout le monde. Premier mensonge, tu n'as pas plus de difficultés qu'un autre. Dieu ne t'a pas créé avec plus de difficultés à prier qu'un autre. Nous avons tous des difficultés à prier. Deuxième mensonge, je n'ai pas les bons mots. Combien de gens me disent, oui, mais moi, quand je prie, je parle mal, je fais des fautes de français. Oh, gloire à Dieu. Dieu s'en fiche du français. Parce que Dieu ne parle pas français, il parle esprit. Alors même si tu mets plein, le seul endroit où tu peux faire plein de de fautes de français, on ne te reprendra jamais, c'est dans la prière. Parce que Dieu, finalement, ce n'est pas les mots qui comptent. C'est le poids, le parfum de ton cœur que transportent les mots. C'est ça qui est important. Donc, arrête avec ça. Je n'ai pas les bons mots. Parce que ce n'est pas possible d'être un enfant de Dieu sauvé, racheté à grand prix, mais que tu te complexes parce que tu n'as pas eu peut-être une grande éducation. Ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question de salut. Que tu aies une grande éducation, une petite éducation, quand Jésus te sauve, quand Dieu t'accueille dans sa présence, tu es fait, tu es qualifié pour pouvoir prier. Les bons mots, les petits mots. Et moi, j'aime ça, que tu sois vieux, jeune. Il n'y a pas de prière qui a plus de poids dans la maison de Dieu. Tu peux être un enfant, tu as du poids. Un enfant qui dit merci, Jésus, amen. C'est bien. C'est aussi bien qu'un qui prie pour le repas pendant 25 minutes. Vous le connaissez, celui-là, hein ? Vous l'avez déjà rencontré. Celui-là, on l'a tous rencontré. Hein ? Il est souvent invité au repas, celui-là. Ouais, il n'a pas faim. Troisième mensonge. Est-ce que vous êtes là ? Est-ce qu'on peut parler de manière de choses profondes, mais en les ramenant dans le réel ? Ok, troisième mensonge. Je ne suis pas assez aligné avec Dieu en ce moment pour prier. Si tu attends d'être aligné avec Dieu pour prier, tu prieras jamais. La Bible dit qu'il n'y a pas un seul juste. Pas même un seul. Pas un seul juste. Donc toi, dans les jours où tu te sens vraiment juste, calme-toi. C'est juste que tu n'es pas conscient de ton péché ce jour-là. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que des fois, on se dit ah, « je vais aller prier », puis après tu dis « ouais, mais enfin, franchement, pas aller prier aujourd'hui, j'ai parlé mal à un tel, en plus, j'ai pas dit tout à fait la vérité ». Tu ne peux pas changer si tu ne t'exposes pas à la lumière. C'est pas en te cachant que tu vas t'améliorer. Nous, on croit toujours, vous savez, on croit toujours qu'il faut gagner la faveur de Dieu. C'est ça notre problème. Hein. Et donc... tu ne la gagneras pas par tes efforts. Donc, arrête de succomber à ce mensonge de croire qu'il faut être extrêmement aligné pour prier. Vous savez, je vais vous raconter un témoignage. Je t'ai converti depuis un an. Ma première année de conversion, pendant les trois premiers mois, quand je donnais ma vie à Jésus, j'ai lu 7 fois le Nouveau Testament. Je priais beaucoup. Bon, c'était facile pour moi, je redoublais une année de fac, donc j'avais du temps. Je priais beaucoup. Je passais du temps avec Dieu, j'allais à l'église, j'allais à toutes les réunions. J'allais le mardi à la réunion, le mercredi j'avais les étudiants, jeudi après-midi les papiers mamie, jeudi soir l'évangélisation et la prière, vendredi la jeunesse, samedi il y avait le jeûne, dimanche matin, vous avez compris quoi. Et au bout d'un an, et vous savez moi, j'avais un endroit où d'ailleurs j'y vais toujours, où j'allais en Corse en vacances. Et en Corse en vacances, quand j'allais là-bas, je retrouvais tous mes amis d'enfance et on faisait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et là, moi, c'est ma première année de vie chrétienne. Donc, je me dis, je ne suis pas prêt. Je n'irai pas encore cette année. Je veux me protéger. Et cette année-là, je ne sais pas pourquoi, mon père décide d'aller en Afrique. Il n'y va jamais en Afrique. Mais cette année-là, il prend un truc. Il part en Afrique et il calcule son timing. Il se dit, je rentre d'Afrique. Le lendemain, on prend le bateau et on va en Corse. Moi, je ne devais pas y aller. Qu'est-ce qui se passe ? L'avion a 48 heures de retard. Pas une heure. Toi, tu es content, Romaric, quand tu as 3 heures, tu es remboursé du billet. Là, c'est 48 heures de retard. Et donc, il m'appelle, il me dit, écoute, je suis bloqué en Mauritanie. Prends ta sœur, ta cousine, tu les amènes en Corse et je les rejoins là-bas. Mais moi, je ne veux pas aller là-bas. Il y a tous mes amis. Je ne vais pas être assez fort. Les sollicitations, je pose mon pied en Corse. Je vous parle en français. Hein, parce que la vie, c'est ça. Je pose le pied en Corse. Il y avait une jeune fille. Ça faisait 2-3 ans que j'avais mis beaucoup d'énergie pour être bien placé. Mais je n'étais pas chrétien à l'époque. Là, je suis chrétien. Je mets mon pied en Corse. C'est elle qui me rentre dedans. Qui me dit, viens avec moi. Nanana. J'ai moi, arrière de moi, sa tante, tout ça là. Et je me retrouve cette année-là. La maison est pleine. Je me retrouve cette année-là à dormir dans le salon de mon oncle. Alors, l'intimité pour la prière, c'était à peu près zéro. Les temps de prière, c'était souvent le soir quand je rentrais à minuit. J'étais tout seul de minuit à minuit et quart avant de m'écrouler. Je priais. Frères et sœurs, j'ai découvert une chose pendant cette saison-là. c'est que mon quart d'heure de prière, il était plus puissant que mes heures de prière à la maison. Parce que j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Comprenez ? Donc, ne croyons pas qu'il faut l'environnement parfait, l'alignement parfait. Tu peux aller dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, franchement, comme moi, j'avais 19 ans, je dis, Seigneur, franchement, ça fait 3 ans que cette fille, elle me plaisait. Maintenant que je veux marcher avec toi, c'est elle qui veut que j'aille avec elle. Aide-moi, Seigneur. C'était ça, mes prières. Des prières du début. Mais même en continuant, les prières restent les mêmes. On a des défis, on a des besoins. Tu attaques un nouveau boulot, Joël. C'est quoi nos prières ? C'est pas tu as un nouveau boulot, il y a quelqu'un qui passe dans la maladie dans la maison, tu as des factures qui arrivent, tu sais pas comment faire, c'est des prières très concrètes, la vie c'est concret. Donc simplement c'est un mensonge de croire que tu dois être aligné pour prier. Quatrièmement, la prière est répétitive et monotone. Ce n'est pas vrai, on va en parler dans quelques minutes. Si ta prière est répétitive et monotone, arrête de prier. C'est une récitation que tu fais. Tu dois apprendre à prier. Vous savez, moi, j'aime la vie de famille parce qu'on ne se dit pas tous les jours la même chose. Parce que imagine, avec Marc, à chaque fois qu'on se voit, on se dit exactement le même contenu. Ben, on ne se parle plus, hein, puisque je sais ce qu'il va me dire. Et lui va me dire, ben, c'est bon, j'ai compris. On doit apprendre à découvrir la richesse de la prière. D'accord ? Donc, ces 4 mensonges, on les met à la poubelle. Je vous donne des choses très pratiques. Premièrement, ne cherche pas la longueur, mais la profondeur. Je répète, ne cherche pas la longueur, mais la profondeur. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je prenais ma montre, je la mettais sur ma table de nuit et je disais, là, je vais prier, ou là, je vais prier. Je mettais Luc Dumont en cassette à l'époque. Il y avait une couverture, il y avait même les cheveux au bol et tout. Je mettais ça, là, il fallait beaucoup d'onction pour le vivre, ça. Mais moi, j'étais en feu avec Luc Dumont. « Tu es grand Seigneur !» Je cassais tout dans ma chambre. Et je ouvrais les yeux, je dis, oh là, j'ai dû prier au moins 25 minutes. Ça faisait 3 minutes que je priais. Et j'avais l'impression d'avoir tout donné. Et arrêtez de vous moquer de moi. Ça vous est déjà arrivé, ça. Et toi, tu te dis, mais j'ai vécu un bon moment. Mais oui, mais en fait, le temps, il ne le traduit pas. Le temps, il te dit, non, c'est très court quand même. Et ce n'est pas la longueur qui compte. Arrêtons de poursuivre la longueur. Ce n'est pas un défi, la prière. C'est une relation. Et si tu y trouves de l'accomplissement, tu auras de la longueur. Tu auras du temps. Le temps, tu vas te développer dans ces choses-là. Mais ne crois pas que la longueur, c'est signe de profondeur. C'est faux. Des fois, on se décourage juste parce qu'on n'arrive pas à accomplir une durée, un timing. Il n'y a aucun verset, je répète bien, il n'y a aucun verset dans la Bible qui dit que pour que tu sois entendu, tu dois prier une durée. S'il y en a un, ah oui, peut-être tu me sauras Gethsémané, mets les choses là où elles doivent être. Si tu as Gethsémané, tu as aussi pris une heure. Et tu as intérêt. Mais on n'est pas tous les jours à Gethsémané, gloire à Dieu. Donc là, ce n'est pas un défi. Et je veux vraiment vous libérer de ça, parce que parfois, vous savez, on est souvent excessif. C'est-à-dire que soit on veut beaucoup prier, soit on ne prie pas. Tu peux juste prier normal. Et tu progresseras. Ça, c'est pareil. Combien de croyants me disent, mais coupable, j'arrive pas à prier plus d'une demi-heure par jour. Mais si le fait de prier une demi-heure par jour, ça te rend coupable, mais c'est une folie, parce que la prière, ça devrait nous libérer, non ? Tu passes du temps dans la présence de Dieu. T'es pas devant un maître d'école qui te fait une évaluation. Et là, il dit, ah, prière, 20 minutes, 4 sur 20. Oh, temps choisi, pas assez simple, 4 sur 20. Non, c'est une libération, donc on ne devrait jamais sortir de la prière culpabilisée. Il devrait y avoir au contraire une joie. Deuxième chose que je veux vous encourager à faire, c'est concret cet après-midi, prie avec la Bible. Prie avec la Bible. Pasteur, je ne sais pas quoi dire à Dieu. Ha ! Dieu a tout pensé. Tu as donné 2500 pages de sujet. Tu la prends n'importe où. On fait un essai ? Prends n'importe où. Il est écrit, le malheur fondra sur toi. Oh là là. J'aurais pu avoir Judas là, ce pauvre. Vous allez voir, on va prier même avec ce verset. Mais le malheur fondra sur toi et tu ne sauras pas comment le conjurer. Oui, une catastrophe t'arrivera, tu ne pourras pas te détourner de toi. Une dévastation dont tu n'as pas idée viendra. Continue donc Peut-être pourras-tu en tirer profit, peut-être sauras-tu te rendre redoutable. Tu lis ça. Seigneur, je veux te demander de me garder, de garder mes pas, de me garder. Je ne veux pas être comme ce gars-là, là, pour qui il a écrit ça. Garde mon cœur, je sais que mes pensées sont tortueuses, je sais que des fois il y a des tentations, je sais que je suis capable de faire des bêtises, Seigneur. Tu peux prier tous les versets. Ah, c'est sûr que si tu lis ce verset, que tu te dis, oh, c'est pour moi, je vais mourir dans l'instant. Ah ben, si c'est ça, lis pas tout l'Ancien Testament, hein, parce qu'il y a beaucoup de versets comme ça. Prie la Bible. La Bible, ce n'est pas juste un livre. C'est un soutien, c'est un livre spirituel et tu peux la découvrir que dans des moments spirituels. Et la prière, c'est spirituel. Donc, tu peux prier à partir de ta lecture, retourner à la Bible. Fais ce comme tu veux, mais inclus-la dans tes temps. La Bible, elle est puissante. Si tu veux ne pas avoir l'impression d'avoir lu pour rien, parce que ça nous arrive aussi, ben inclus la Bible dans des temps spirituels. Et ça change tout. Donc, prie la Bible. Ne cherche pas la longueur, mais la profondeur. Choisis ton meilleur moment de la journée. Je vais vous dire une chose simple. Parfois, le combat spirituel, c'est juste un réveil à mettre. Tu mets ton réveil, t'as la victoire. Les amis, Marc, tu peux organiser une chaîne de prière pour moi, pour que j'ai la force de prier le matin à 7 heures. Non, 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 ma sœur, on ne fera pas ça. Soit mets ton réveil, ou prie à un autre moment de la journée. Moi, pendant des années, on m'a dit, la prière, c'est le matin. Quand je me suis converti, on m'a dit, la prière, c'est le matin. Ah. Le problème que j'avais, c'est que j'avais 19 ans et que j'étais du soir. Donc moi, je mettais mon réveil à 5 heures, là, à 6 heures. J'étais un zombie. Ah, je priais. Hein. Je ne sais pas ce que je disais, mais je priais. Et les trois quarts du temps, ça finissait endormi. Donc j'ai découvert un secret. Je prie le soir. Maintenant, j'ai inversé parce que je suis du matin maintenant. Mais je vais te dire, prie le midi si tu veux. Prie à 14h55. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas écrit un moment dans ta Bible. Voici les horaires à respecter pour que Dieu t'entende. Nous, des fois, on s'entête à vouloir prier à un moment donné, ça ne nous correspond pas. La bonne nouvelle, c'est que la vie spirituelle, c'est un costume à ta taille. C'est à toi de le faire vivre, de le pratiquer. Je discutais avec quelqu'un pas longtemps, et vraiment exactement ça. La sœur me dit, je n'arrive pas à prier le matin. Mais moi, je lui dis, prie le soir. Ah ouais. Voilà, elle a eu la victoire. Non, mais on est sérieux, on rigole. Des fois, le diable nous attrape par des raisonnements, mais nuls. On veut s'astreindre, on a une image de ce qu'est une femme de Dieu ou un homme de Dieu. Ce n'est pas une image qui sort de la Bible, c'est une image qu'on s'est fabriquée à cause de choses qu'on a entendues ou je ne sais pas quoi, de témoignages. On se dit, ben voilà, moi je serai ça. Mais si tu n'es pas ça, tu ne rentreras jamais dans ce moule-là et tu vas galérer toute ta vie. Tu as les bons outils, mais tu galères quand même. Donc, prie au meilleur moment de la journée. Matthieu 6:6, je le lis pour vous. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est là dans le lieu secret, ton père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a écrit quand tu pries, entre dans ta chambre. Si tu n'as pas ta chambre, tu ne peux pas prier. L'idée là, c'est d'avoir un moment où tu peux vraiment passer du temps. Si ton meilleur moment, c'est à la pause, le midi au travail, fais de ce moment ton temps avec Dieu, fais de ce moment le sanctuaire de ta vie spirituelle. En fait, c'est juste ça. Donc, quand tu pries, Dieu est là et il y a quelque chose qui se passe parce qu'il te le rend, parce qu'il il libère des choses sur ta vie. Une autre chose que je veux dire, une autre vérité, sois régulier et en progrès. Sois régulier et en progrès, c'est ça qui est important dans la prière. Tu ne te lèves pas un matin. Il y a quelqu'un il y a quelques temps qui m'a dit, je vais faire un jeûne de 21 jours. Ah ben, j'ai dit, ben, c'est super. Je lui dis, raconte-moi tes autres expériences de jeûne. Ah, mais j'ai jamais jeûné. C'est beau, l'intention est belle, hein, mais tu ne vas pas durer longtemps. Parce que tu grandis dans ces choses-là. Je vais faire une nuit de prière. Des fois, il vaut mieux pas faire une nuit de prière, mais prier tous les jours 20 minutes, pendant 10 ans. Donc, marche de progrès en progrès. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des exploits. Comprenez ce que je veux dire. Mais il ne faut pas qu'on ait que des exploits, en fait. Qui est un exploit à Pâques, un exploit à Noël, il vaut mieux avoir des choses à l'intérieur. Donc, prie de manière régulière, de progrès en progrès. C'est 1 Thessaloniciens 5, 18 qui nous enseigne ça, prier sans cesse. Donc, marche de progrès en progrès aussi dans ce domaine-là. Utilise les moments collectifs pour développer ton endurance. Pendant des années, lorsque je me suis converti, je trouvais qu'il y avait plus de puissance dans la prière quand on était tous ensemble. Aujourd'hui, je trouve que c'est l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais c'est différent. Mais utilise les moments collectifs. Des fois, tu es seul dans ta chambre, tu as l'impression que c'est long. Profite qu'il y ait des réunions de prière. Profite qu'il y ait la prière avant l'église. Profite qu'il y ait un groupe de maison avec des gens avec qui tu peux prier. Des fois, c'est plus simple. Moi, pendant des années, je priais. Pendant les deux premières années de ma vie chrétienne, je priais toutes les nuits avec un ami à moi, toutes les nuits, quasiment toutes les semaines. Bon, lui, il a échoué ses études, du coup, parce que tu ne peux pas ne pas dormir. On était un peu déséquilibrés quand même. Mais n'empêche que les fondements de ma vie de prière, c'est grâce à lui. Parce que c'était un peu comme un modèle. Il priait devant moi et moi, je le suivais, quoi. Donc, utilise les moments collectifs. C'est super important. Moi, je sais qu'il y a des moments donnés, je n'ai pas envie, je me connecte à la prière à 6 heures le matin et ça m'aide. Ça m'aide. Bon, je sais que vous, vous êtes tous déjà dans votre troisième heure de prière à 6 heures et tout, mais des fois, je peux vous assurer, ça fait du bien. Gérard, il dit non, non. Ouais, des fois, utilise les moments collectifs. On parle des choses concrètes. La prière n'est pas enfermée dans un moment de ta journée. Le Saint-Esprit est tout le temps avec toi. Tu veux prier, prie sans cesse. Apprends à parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, il est avec toi en ce moment. Il est à côté de toi. Il est avec toi tout à l'heure quand on sort. Mais je dis merci au Seigneur qu'il ne soit pas enfermé dans cette pièce. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on attend 7 jours pour le retrouver. Mais non, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va être avec nous. Là, on va sortir, je vais aller chercher ma voiture, un gars va me faire une queue de poisson. Saint-Esprit, il est là. Je rentre à la maison, on fait la cuisine, il y a des choses à faire. Le Saint-Esprit est là, tu lui parles. Seigneur, merci d'être là. Ah Seigneur, tu as vu cette chose dans ma vie en ce moment, aide-moi là. Donne-moi plus de patience pour telle chose, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, transforme Marc, bénis-le, fais-lui du bien. Mais c'est la vie, ça. Tu sais, il n'y a pas de préalable à parler à quelqu'un de sa famille, non? Gérard, quand tu te lèves le matin, tu dis, oh merci Estelle d'être mon épouse, je t'ai prié, accorde-moi faveur afin que je puisse te parler aujourd'hui. Il ne fait pas ça, tu nous rassures. Mais nous, des fois, on fait ça avec Dieu. Toi, tu as changé de journée, mais Dieu, il n'a pas changé de journée parce que lui, il est dans une seule journée. Pour lui, il n'y a pas eu de changement, il t'a regardé dormir. Et tu te lèves, tu dis, Seigneur, merci. Oh, tu as vu ce rêve, Seigneur, pourquoi je fais des rêves comme ça de moi? C'est ça la vie chrétienne. On n'est pas toujours là à prêcher. Hein. Dernière chose, la prière, elle est multiple. La prière, qu'est-ce que c'est d'ailleurs, la prière? Qu'est-ce que c'est la prière? Hein? La prière, c'est tout ça. C'est la louange, c'est l'adoration, c'est l'action de grâce, c'est l'intercession, c'est la contemplation, c'est les requêtes, c'est les remerciements. C'est ça la prière. La prière, c'est pas juste une liste de courses que tu présentes à Dieu tous les jours. Parce que si c'est ça, c'est sûr que ça, c'est ennuyeux. Non, la prière, c'est tout ça. Des fois, tu ne vas rien demander. Des fois, c'est juste une journée de merci. Vous avez ça, vous, les journées merci? Des fois, c'est que des plaintes. Vous avez ça aussi? Ouais, je sais, elles y sont, celles-là. Il y a des journées plaintes. Il y a des journées action de grâce. Il y a des journées intercession. Parce qu'on sent qu'on a besoin. Mais c'est ça, la prière. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui ne crée pas de monotonie. Donc, on doit apprendre à découvrir toutes ces avenues de la prière. La prière, c'est vivre avec quelqu'un. Vivre avec quelqu'un, ce n'est pas monotone. Même avec toi-même, tu n'es pas monotone. Mais alors, avec quelqu'un, c'est toujours différent. Pour ceux qui ont des enfants, mais moi, je ne peux pas prévoir d'avance ce qui va se passer. Hein. Il va y avoir des trucs, hein. Mais on ne sait pas d'avance ce qui va se passer. C'est vrai. Je crois qu'elle est aux enfants. Je me lève le matin, moi. Ma femme, des fois, est moins bien lunée, hein. Non, mais priez pour elle. Je sais que vous êtes parfait. Que... On va faire un sondage auprès des conjoints, je pense. Toi-même, des fois, tu te lèves, t'es moins bien luné, tu ne sais même pas pourquoi. Alors, tu es là, dis Seigneur, aide-moi aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ces humeurs. Mais Seigneur, comme Paul, il a dit ça, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Seigneur, c'est pas possible. Et c'est ça la vie, c'est ça la prière, c'est ça. Passe un cap de prière. Je vais très vite sur la parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. En faisant ainsi, je raccourcis un peu, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Dieu veut que tu aies du succès. Frères et sœurs, Dieu veut que vous ayez du succès. Dis à la personne à côté de toi, Dieu veut que tu aies du succès dans tes entreprises. Et Dieu veut tellement que tu aies du succès qu'il t'a donné le livre de la loi. Il t'a donné le livre de sa loi, le livre du succès. Tu peux faire des formations en succès, mais ce livre-là, il a plus de principes et de puissance pour le vrai succès, celui qui reste. Alors, et ça, c'est ce que Dieu veut. Alors, si Dieu dit, je veux que tu aies du succès, donc je te donne la Bible, c'est que ce livre n'est pas juste vieux, poussiéreux et fermé. C'est qu'il y a quelque chose à en retirer. Je veux dénoncer des mensonges très simples. Premier mensonge, je ne suis pas un grand lecteur. Ah, ça, je l'ai entendu, mais... Mais même moi, quand je me suis converti, on m'a donné la Bible, 2500 pages. Je vous demande pardon, parce que moi, c'était mes références à l'époque. J'ai dit, c'est plus fin que du papier à cigarette. Je fumais des cigarettes roulées quand j'étais jeune, et c'était plus fin, le papier de la Bible. Et je n'avais jamais lu un livre de 2500 pages. Je me suis dit, c'est pas fait pour moi. J'écoute le pasteur, c'est fait pour lui. Lui, il lit, il me résume. Hein ? Ça, c'est un mensonge. La Bible, elle est dure pour tout le monde. Moi, quand j'attaque le Lévitique, je ne dis pas « Alléluia, ouhouhou, ça va être génial. Hein » Les nombres. Ah, j'ai entendu le soupir. Quand tu as des petites généalogies qui font 10 pages, bon, je sais qu'il y en a certains qui les sautent. Moi, je ne les saute pas, je les lis. Non, mais on se parle en vrai. Moi, pourquoi on rigole, là ? Parce que la vérité, c'est que toi, tu crois que tu es un cas unique. Tu crois que tu as des défis uniques, mais on a exactement les mêmes défis tous. Je ne suis pas un grand lecteur. Personne n'est un grand lecteur. Et même si tu es un grand lecteur, tu ne sais pas si tu es un grand lecteur pour la Bible. Et surtout dans les nouvelles générations, de moins en moins de grands lecteurs. Deuxième mensonge, je ne suis pas comme ceux qui comprennent tout. Combien de gens m'ont dit « je ne comprends pas quand j'ai la Bible » ? Des chrétiens, des fois, pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans chrétiens, ils me disent « je ne comprends pas quand j'ai la Bible ». Mais je vais te dire une chose, il y a plein d'endroits où je ne comprends rien non plus. Il y a même un livre, l'Apocalypse, il est écrit que ceux qui vont croire qu'ils comprennent, ils ne comprennent rien. Alors déjà, tu commences bien. C'est pas vrai, tu commences un livre, il est écrit « bon, tu vas croire que tu vas comprendre, mais tu ne vas rien comprendre ». Ah. Il y a plein d'endroits où on ne comprend pas. Gloire à Dieu, il y a plein de versions bibliques. Il y a quelqu'un cette semaine qui m'a écrit, qui m'a dit « Ah, je dois offrir une Bible à mon mari. Est-ce que tu aurais une version simple à me conseiller ?» Je lui ai dit, il y a la Bible, la parole de vie, par exemple. Il y a la Bible, le français courant, par exemple. Il y a la seconde 21. Si tu as besoin d'avoir des versions simplifiées, il y en a plein qui existent. Mais ce que je veux dire, c'est que la Bible, parfois, elle est compliquée. Il y a des versets, il y a des théologiens qui étudient ces versets depuis des millénaires, ils ne l'ont toujours pas compris. Par exemple, il y a écrit que Christ est allé prêcher aux esprits en enfer. Va voir Joël, il va essayer de t'expliquer, mais ce qu'il te dit, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que c'est trop complexe et obscur tout ça. C'est des choses qui sont très profondes. On sait, moi, je peux vous dire, il s'est passé quelque chose ce jour-là, mais quoi exactement en détail ? Je ne sais pas. Dieu nous l'expliquera. Dernière chose, j'aimerais me rappeler des versets comme Romaric. Frères et sœurs, vous savez pourquoi il se rappelle des versets ? C'est pas parce qu'il a une grande mémoire, hein. C'est parce qu'il les lit tous les jours depuis 20 ans. Donc au bout d'un moment, il y en a un qui te marque un peu, quoi. Puis un deuxième, et un troisième, et après, des fois, il y a des passages, tu les connais tellement, puis tu les as entendus, donc... C'est des mensonges, tout ça, de croire qu'il y en a qui sont des grands lecteurs, il y en a qui comprennent tout, il y en a qui connaissent les versets en une lecture. Mais tout ça, on le croit à des moments donnés. C'est faux, tout ça. Donc, tu dois apprendre à lire la Bible dans la vérité. Comment on fait ? Premièrement, l'heure de ta lecture est cruciale. Cruciale lors de la lecture de la Bible. Ne lis pas ta Bible allongée dans ton lit. Témoignage. On est dans le concret. Témoignage. Une sœur vient me voir à l'église, elle me dit « J'ai du mal à lire la Bible, c'est dur, prie pour moi, nanana. » Je lui dis, bah, écoute, ouais, on discute. Et je lui dis, mais alors, explique-moi comment ça se passe un peu ta lecture. Ah ben moi, mon meilleur moment, c'est avant de me coucher, je m'allonge et je prends ma Bible. Ah ben là, je peux même pas. Là, c'est plus. Là, tu es face à un adversaire qui est plus puissant que l'enfer. Hein. C'est ton coussin. Non mais, hey, ça vous est pas arrivé ça? À qui c'est pas arrivé en fait? On va faire plus simple. À qui c'est pas arrivé? T'es là, tu te mets, t'es bien. Oh Seigneur, ta Bible. Tu commences à me verser. Tu veux passer un cap dans la lecture de ta Bible? Vous savez ce que je fais moi le matin? Je me mets dans une position où je suis mal à l'aise. Parce que sinon, je m'endors. Donc dès que ça sonne, pouf, je jaillis, je bois le café et je me mets assis. Parce qu'il n'y a que assis où je ne repars pas. Donc là, je reste. Je prie, oh Seigneur. Mais des fois, c'est tout simple. Lis la Bible au bon moment. C'est comme la prière, en fait. La Bible commence quelque part. Des fois, tu es là, tu vois tout ce livre. Je commencerai demain. Commence quelque part. Je vais te donner même une recette, parce que ça, beaucoup de gens me demandent. Où je lis la Bible? Par où je commence? Et quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, nouveau, « Ah, j'ai commencé la Bible par la Genèse, je ne comprends rien. » Ben, l'Ancien Testament, on se parle en vrai, ce n'est pas le plus simple, hein, non? Ou qu'il n'y a que vous qui comprenez tout. Mais moi, quand je suis arrivé, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Oula, c'est quoi l'histoire? Ce sont ces fameux héros qui sont connus dans l'Antiquité. Oula, il y a aussi des Grecs là-dedans. Tu sais pas, hein? C'est quoi l'Antiquité? Il y avait Gladiator? Je ne sais pas. Commence quelque part. Voici la clé pour bien commencer. Psaume, proverbe, évangile. Frères et sœurs, vous avez arrêté de lire la Bible depuis longtemps? Recommencez. Psaume, proverbe, évangile. Ça ne veut pas dire que vous allez faire ça toute votre vie, mais commencez quelque part. Commencez quelque part. C'est sûr que si toi tu es là et tu t'es dit, je me laisse, j'ouvre au hasard et tu commences ta première lecture, tu n'as plus lu la Bible depuis 6 mois, comme ça peut arriver à quelqu'un cet après-midi. Et là, tu veux recommencer et tu es dans les nombres, tu vas te décourager. Donc, il faut recommencer dans des endroits où tu peux. Exerce-toi la piété, dit Paul. La piété, c'est un exercice. Moi, j'ai repris le footing après mon hibernation du mois de décembre, janvier, février, mars, avril. T'es longue? J'ai hiberné longtemps. Et j'ai repris le footing et j'ai découvert un truc tout simple, c'est qu'il faut se fixer des objectifs atteignables. Premièrement, il ne faut pas vouloir faire des grandes performances et puis commence quelque part. Le plus dur, c'est le premier kilomètre. Après, ça va. Mais commence quelque part. Et la Bible, c'est pareil. Quand tu as arrêté de la lire, tu as l'impression que tu n'arriveras plus jamais. C'est comme la prière, ça. Des petites portions deviendront grandes. Les petites portions deviendront grandes. Et une autre chose, la Bible, ce n'est pas un concours. La Bible en un an, ce n'est pas un diplôme. Là, c'est une folie, la Bible en un an. Des fois, moi, j'ai voulu faire plusieurs années de fil la Bible en un an. Et des fois, j'avais du retard. Donc, je lisais le double ou le triple. Je retenais rien. Mais par contre, en un an, amen, je l'ai fait. Et ça ne sert à rien. La Bible en un an, ce n'est pas un diplôme. Il n'y aura pas Jésus qui va t'apparaître. Il va te dire, bravo, tu l'as fait. Il vaut mieux lire quelques versets. Même moi, ça m'arrive, des fois, je lis le même chapitre pendant une semaine. Parce que je sens que Dieu veut que je sois là, ça me parle, ça me procure des défis, je sais que c'est là que je dois rester. Des fois, tu vas lire 10 versets, qu'importe, mais lis un endroit, commence quelque part. Les petites portions deviendront grandes. Tu as du mal à lire, commence quelque part. Important. La dernière chose que je vais vous dire, soyez constant. Soyez constant. C'est la constance qui nous permet de bâtir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais quand on arrête de lire et de prier de lire la Bible et de prier, et qu'on veut s'y remettre, on a l'impression que c'est dur. Vous avez remarqué ça? Parce que vous avez tous, je vous mets à l'aise, vous avez tous arrêté de prier une fois, au moins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, peut-être plus. Et pareil pour la Bible. Puis là, tu es de bonne volonté, tu dis, Seigneur, je veux retourner. T'as l'impression que c'est dur, on dirait que les pages de ta Bible pèsent une tonne, que Dieu est loin, que le ciel est fermé. Mais ce qui est important, c'est de recommencer, de se repositionner, de réouvrir le livre, de se remettre à prier. C'est dur de prier. Mets-toi un CD. Mets-toi un CD. C'est pas un péché hein, d'avoir un CD chrétien. Tu chantes avec ton chanteur préféré. Tu demandes à Fabien, là où il, pas où il est. Il t'envoie son chant. Tu l'achètes. Non, c'est mieux. Excuse-moi. Tu pirates son CD. Et tu chantes et tu es aidé par quelqu'un, un support, par quelqu'un. Et la Bible, c'est pareil. C'est la constance, la clé. La constance, c'est la clé. Tu veux passer un cap, lis ta Bible tous les jours. C'est pas une litanie, c'est pas une obligation, c'est pas tu dois le faire. C'est en fait le truc, c'est que si tu ne le fais pas, tu restes sauvé, hein. Mais tu passes pas un cap. C'est ça le problème. C'est comme la vie de prière, c'est tu es pas obligé de le faire. Un chrétien qui prie pas, Dieu ne le rejette pas. Tu as pas prié aujourd'hui, je te rejette. Mais le problème, c'est qu'il passera pas un cap. C'est qu'il va être dirigé par ses propres pensées en permanence, c'est qu'il va faire que des mauvais choix et que le plan de Dieu, il ne pourra pas rentrer dedans ou des fois, il y rentrera, mais c'est accidentel. Et du coup, sa vie chrétienne, elle va être morose et sa vie va être morose de toute façon. Donc, c'est des choses toutes simples. Je vous ai dit beaucoup de choses simples cet après-midi. Je les ai prises sur le ton de la rigolade. Plusieurs vous avez rigolé. Mais je voulais que vous captiez qu'en fait, on le vit tous, quoi. Ben toi, tu crois que c'est dur la prière, ben c'est dur pour lui aussi. Jérôme, c'est dur pour toi la prière? C'est dur. Lecture de la Bible, des fois, ça te décourage? Tu dois dire oui, sinon tu mens. Oui. Okay. Mais oui, des fois, on est comme ça. Et là, on attaque cette période estivale. On est sollicité, on va être en famille. Peut-être vous allez être comme moi, dans mon truc en Corse, où j'avais que mes 10 minutes. Mais dans tes 10 minutes, Dieu peut être là. Dans tes 2 versets, Dieu peut être là. Ce qui est important, c'est la constance. Tu veux passer un cap, tu gardes tes acquis. Même si à des moments donnés, tu vas plutôt prendre du snacking ou des sandwichs, c'est quand même de la nourriture. C'est important de le faire tous les jours. Il y a des temps où pour les gros repas et des temps, c'est peut-être des choses plus succinctes. Tu ne peux pas non plus faire que ça toute ta vie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très important de le pratiquer, de le mettre en route, de trouver quelqu'un, utiliser les moments de prière, utiliser... Quand on a la chance d'avoir Joël ou Romarie qui prêchent, ces moments-là, c'est aussi d'être en contact avec la parole de Dieu. Ça nous aide. Dans les saisons où tu ne lis plus ta Bible, écouter le message, c'est important. C'est important. Moi, il y a eu des saisons où j'avais plus envie de lire ma Bible. Des fois, il y a des accidents. Les amis, moi, quand mon papa est décédé, le mois qui a suivi, c'était, j'avais une vie spirituelle qui était minable. Dès que je fermais les yeux, je pleurais. Donc, je n'arrivais pas à garder mes pensées disciplinées quand je lisais la Bible. C'est la vie, ça, non? Vous êtes là. Des fois, tu es malade, tu passes par la maladie, tu es en vie, mais... C'est compliqué. Donc, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'on est ensemble, on peut s'encourager, on a tous les mêmes défis, on peut tous avoir les bonnes victoires aussi. OK ? Donc, j'aimerais juste qu'on puisse lever. On va terminer juste par un chant, on va s'encourager. Je veux que vous gardiez cette atmosphère, ce parfum, cet après-midi, de vous dire, vous êtes normaux. Dis à la personne à côté de toi, ça me rassure, tu es normal. Je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un cet après-midi qui a arrêté de lire la Bible depuis longtemps. Quelqu'un qui commence. Peut-être que tu as arrêté de prier aussi, ou que ta prière n'est plus comme celle d'avant. Et ce que j'aimerais cet après-midi vraiment, c'est nous encourager à recommencer quelque chose quelque part. C'est à réouvrir sa Bible, à recommencer avec humilité. Parfois, le problème, c'est qu'on a une image de nous tellement spirituelle qu'on n'a pas l'humilité de dire ben, « je recommence à zéro ». Je recommence comme un enfant, je débute dans des choses simples. Et je veux prier cet après-midi de manière particulière pour tous ceux et toutes celles qui, en ce moment, et je ne vous demanderai pas de lever la main, mais tous ceux et toutes celles qui, en ce moment, passent par ce temps justement où peut-être ils ont arrêté. une circonstance, un événement, un moment qui fait que tu as arrêté. Tu as arrêté de prier, tu as arrêté de lire la Bible, tu l'as mise de côté. Dieu t'aime toujours pareil, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, toujours pareil. Tu es sauvé, toujours pareil. Mais cet après-midi, ça peut être un bon moment pour remettre quelque chose de très concret dans ta vie. De remettre la parole de Dieu, par exemple, le matin ou le soir, qu'importe. Peut-être pour quelqu'un de recommencer à prier alors qu'il a arrêté de prier. Pour un autre, c'est peut-être de passer une étape maintenant. Si ça fait des mois et des années que tu es juste à cet endroit-là, tes 10 minutes de prière, peut-être cette année, dans cette deuxième partie d'année 2023, tu vas atteindre ton quart d'heure ou tes 20 minutes ou ta demi-heure, qu'importe. Mais si nous voulons passer un cap, nous devons absolument poser des actes concrets dans nos vies. Et je prie au nom de Jésus, on l'a pris sous le ton de la rigolade, mais je le prends avec beaucoup de sérieux. Je prie pour tous ceux qui ont été dominés par des pensées qui les ont, complexés. De se dire, ah mais moi, je comprends pas la Bible, je sais pas prier, je n'ai pas les bons mots, je suis pas comme un tel ou un tel, je suis pas un grand lecteur, je suis pas ci ou ça, qu'importe. Mais parfois, il y a des pensées comme ça qui viennent et qui nous complexent, comme si Dieu nous prenait pour les derniers de la classe. Je veux te le dire dans le nom de Jésus, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de dernier de la classe. Il n'y a pas les cancres et les premiers. Il y a juste des enfants de Dieu qui ont été sauvés. Et on arrive tous devant le trône du roi des rois avec toute notre humanité qui est vraiment réelle. Nous sommes profondément humains, c'est une vérité. Et nous disons, Saint-Esprit, viens nous aider. D'ailleurs, frères et sœurs, le Saint-Esprit est là parce que vous êtes des humains et vous avez besoin d'être aidés. Saint-Esprit, merci d'être là pour nous aider à lever les mains quand nos mains veulent se tourner vers la terre, à lever les yeux lorsqu'on n'a plus envie de regarder le ciel. Merci, Saint-Esprit, de nous aider à réouvrir la parole de Dieu d'une manière nouvelle et fraîche alors qu'on n'a plus envie, alors que peut-être on l'a fermée depuis longtemps. Je prie que cet après-midi, il y ait des Bibles qui se réouvrent. Au nom de Jésus. Je prie cet après-midi qu'il y ait des sons de prière qui soient à nouveau entendus dans des maisons. Je prie cet après-midi pour qu'il y ait des autels de prière qui soient rebâtis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que tous les complexes spirituels soient brisés. Au nom de Jésus. Seigneur. Je veux déclarer dans ta maison que oui, je ne suis pas spirituel, je suis charnel. Mais malgré que je suis charnel, je peux devenir spirituel. Je peux grandir dans la prière, je peux grandir dans ta parole. Je peux grandir dans ma position d'enfant de Dieu, je peux être encore plus solide. Et c'est ce que je déclare sur ton église cet après-midi. Que nous puissions être solides, simples et solides, authentiques et forts. Seigneur, peut-être pas parfait, mais par ta grâce, nous accomplissons des exploits. Par ta grâce, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.